Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Elle devait d'abord être toute petite, peut-être même inexistante, ce qui aurait contraint le nouveau président à une cohabitation immédiate. Elle devait ensuite être énorme, hégémonique, faisant courir le risque d'une confiscation des pouvoirs par une seule formation politique. Finalement, la majorité issue du second tour des législatives s'avère idéalement proportionnée, si on se place du point de vue du pouvoir, suffisamment importante pour ne pas avoir à transiger sur le programme, suffisamment contenue pour laisser de l'espace à l'opposition. La droite paraît la mieux placée pour occuper cet espace. Avec 130 députés, les Républicains et l'UDI devancent largement celui qui fut longtemps leur principal adversaire, le Parti Socialiste. Mais dans un camp comme dans l'autre, les fractures sont telles que personne ne paraît pour l'instant en mesure d'incarner l'alternative. Du coup, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, tous deux néo-députés, qui s'affichent comme les principaux opposants à Emmanuel Macron. Comme l'écrit à leur propos Françoise Fressoz dans Le Monde d'aujourd'hui, leur verbe sera leur force. Alors certes, c'est important, mais ça ne fait jamais qu'une grosse vingtaine de députés, pour peu qu'on ait l'idée saugrenue d'ajouter ceux de la France insoumise à ceux du Front National. Dès lors, quel sera le niveau d'adversité auquel la nouvelle majorité devra faire face? Et puisque nous sommes à la fin d'une longue séquence électorale, n'hésitons pas à anticiper la suivante, à travers la question suivante, justement. L'alternance, c'est pour quand? Et c'est la question que nous allons poser à notre club des idées qu'on retrouve traditionnellement le vendredi, mais vous avez commencé à en avoir l'habitude après certains scrutins. On a déplacé ce rendez-vous au lundi. Ils sont quatre ce soir. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous enseignez à Sciences Po. J'ai vu que vous étiez dans le classement des 30 éclaireurs du magazine Vanity Fair qui sort son numéro de juillet. Voilà, 30 éclaireurs de moins de 30 ans voilà, pour la société française. Vous étiez au courant manifestement. Il faudra lire dans Vanity Fair. Brice Couturier, bah les autres, je ne sais pas si les autres invités vont nous éclairer ou vont éteindre la lumière. Non, vous allez nous éclairer aussi. Brice Couturier, bonsoir.
Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Je ne fais pas partie des 30, mais je postule.
Le tour du monde, bah c'est moins de 30 ans, donc je ne sais pas. Vous êtes juste à la limite.
Oui, un petit peu.
Le tour du monde des idées, du lundi au vendredi à 11h50 sur France Culture. On vous retrouve également dans le magazine Le Point. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir Hervé. Et qui fait Lanterne Rouge alors?
Ah bah écoutez, on va voir, je vous laisserai vous attribuer cette place. En tout cas, vous êtes historien et géographe et professeur à Sciences Po. Et Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
La suite dans les idées, vous c'est le samedi, c'est à
13h30,
voilà, c'est aussi sur France Culture, vous êtes professeur associé à l'EHESS. Je voudrais qu'on commence cette émission en évoquant la question de l'abstention. On le sait, elle a été particulièrement importante hier, 57,4%, alors que quelques semaines plus tôt, au premier tour de la présidentielle, elle n'était que de 22,23%. Comment est-ce que vous expliquez un tel décalage entre ces deux scrutins, Sylvain Kahn ?
Bon, je ne vais pas dire des choses très originales, je crois, mais la première raison, c'est que depuis une semaine, on nous expliquait que tout était joué. Donc, ce n'est pas très mobilisateur. Et dans le cadre de cette information peu mobilisatrice, qu'on doit donc aux instituts de sondage et à la presse, manifestement, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui se disaient bah, « Pourquoi me déplacer pour apporter mes suffrages à La République En Marche ou à Emmanuel Macron, pour qui je n'ai pas forcément voté au premier tour de l'élection présidentielle ?» Je rappelle qu'il avait fait 24% des suffrages exprimés. Voilà, donc la conjugaison de ces deux raisons, telles deux poupées russes, la seconde étant dans la première, me semble suffire à expliquer. Alors après, on peut toujours imaginer qu'il y a une lassitude par rapport à 8 tours de scrutin. On peut aussi dire, moi j'aurais assez envie de le dire, je sais
8
pas
tours de scrutin, ça c'est en mettant les
primaires avec.
On pourrait même en rajouter deux, hein, parce qu'on peut aussi avoir voté précédemment pour aux deux tours de la primaire des écologistes, ce
tout
qui
à fait
10 tours de scrutin.
Tout à fait. Bon,
je sais pas s'il y a des individus d'ailleurs qui ont cumulé comme ça.
Sûrement,
ça
sûrement. Après, on peut aussi dire que c'est peut-être moi, c'est ce que j'aimerais ajouter. Je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais disons, j'aimerais voir dans cette abstention une raison supplémentaire qui est une forme de lassitude, voire de défiance vis-à-vis du scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre de la Ve République.
Est-ce que vous y voyez tout ça et plus encore, Sylvain Bourmeau ?
J'y vois ça et j'y vois aussi d'autres choses. C'est-à-dire que, bon, on a une offre politique qui a été assez largement transformé. Donc, s'il n'y a pas eu beaucoup de participation ce dimanche, et s'il y a eu aussi, parce qu'il faut le noter, le phénomène est encore plus remarquable à certains égards, 2 millions de votes blancs et nuls, 2 millions, c'est considérable. Il y a eu 2% de vote blanc et nul au premier tour. Et là, on a bondi au deuxième tour. Et ça participe, à mon sens, d'un même mouvement. Autrefois, dans les scrutins précédents, le cas de figure le plus général, il souffrait quelques exceptions, mais le cas de figure le plus général, c'était qu'un candidat de la gauche soit confronté à un candidat de la droite. Alors, ces exceptions, elles concernaient la présence éventuelle du Front National, dans des situations soit triangulaires, soit d'élections avec deux candidats. Mais à chaque fois, c'était mobilisateur. C'est-à-dire que vous étiez de gauche, vous alliez voter pour la gauche, vous étiez de droite, vous alliez voter pour la droite. Si d'aventure, votre camp n'était pas représenté, que c'était le Front National, ben vous étiez dans une attitude de bloc républicain, vous faisiez barrage au Front National, par exemple. Donc, tout ça faisait que les gens participaient. Or, là, il y a eu des situations extrêmement différentes d'une circonscription à l'autre. Vous aviez des circonscriptions qui, je vais prendre l'exemple du 18e arrondissement de Paris, vous aviez un candidat soutenu par le président de la République face à un autre soutenu par le Premier ministre, par exemple. Donc, vous imaginez que ça laisse de côté.
C'est un peu exceptionnel.
Oui, mais il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles vous aviez un candidat de La République En Marche opposé à un candidat de droite ou opposé à un candidat de gauche. Donc, dans ces cas-là, vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose que faire barrage au Front National. C'est-à-dire que, du coup, un certain nombre de gens n'ont tout simplement pas eu envie d'aller voter parce qu'ils n'avaient pas envie de soutenir Emmanuel Macron et qu'ils n'avaient pas envie de voter pour l'opposant Emmanuel Macron, puisque c'était le parti contre lequel, en général, il vote. Donc, ça, il y a un effet absolument mécanique. Mais j'aimerais dire une autre chose, parce que ça me semble aussi parfaitement compatible avec un autre type d'explication, qui peut paraître bizarre, qui peut paraître saugrenue, mais j'y crois fondamentalement. Je pense que l'abstention très forte, le vote blanc et nul très fort, finalement, on pourrait les additionner au vote La République En Marche. Parce que je pense que ensemble, ça dit non pas une fatigue démocratique, mais ça dit une crise de régime très très puissante. Et c'est pas une nouveauté. C'est cette crise qui a permis à Emmanuel Macron de remporter l'élection présidentielle parce qu'il y avait une envie de changement, non pas de changement uniquement de politique publique, mais il y avait un gros problème avec la manière dont on fait de la politique professionnelle dans ce pays. C'est ça qui a permis à Emmanuel Macron, à bien des égards, d'être élu. C'est ça le levier principal. Un certain nombre de gens ont fait confiance à Macron pour ça, et ont voté pour lui, et d'autres lui font pas du tout confiance et préfèrent s'abstenir ou voter blanc. Mais ils ont en commun de remettre en question, et on le voit à travers les scores assez faibles des partis classiques de droite et de gauche, la politique professionnelle telle qu'elle existe depuis, depuis la Ve République, début de la Ve République.
Alors voilà, en effet, une hypothèse qui me paraît pour le moins originale, que d'additionner en tout cas les voix des abstentionnistes, des blancs, des nuls et du vote Macron pour en faire finalement l'expression, non pas d'un phénomène identique, mais enfin en tout cas ouais, d'une crise de régime. Qu'est-ce que vous en pensez, Anastasia Colosimo et Brice Couturier? Oui. Anastasia Colosimo.
Je suis évidemment assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que quand même la lassitude joue, c'est-à-dire que ça fait beaucoup quand même. On s'y est mis il y a un an et ça a été surtout très intense. Ça compte aussi beaucoup. Ça a été plein de rebondissements. Donc je pense que la lassitude, elle est double. Il y a une lassitude temporelle et une lassitude d'énergie, quoi. C'est-à-dire, il y a ça. Ensuite, pour ajouter à la confusion, parce que moi, ce qui me semble, c'est plutôt le règne d'une grande confusion. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait plus trop qui est à droite, qui est à gauche, qui est avec qui est avec les Républicains En Marche, qui est contre, qui est pour qui, etc. Il y a aussi le fait que c'est l'ADN aussi. Alors, justement, moi, je ne pense pas que c'est l'ADN de la Ve République, mais telle qu'elle existe aujourd'hui, cette Ve République, avec le quinquennat et avec le bouleversement du calendrier, et ces législatives qui viennent juste après les présidentielles, c'est vrai que même les opposants à Emmanuel Macron ont plutôt du mal à se dire, et c'est quand même dans la logique, on ne va pas lui donner de majorité, parce que ça veut dire qu'il pourra pas appliquer son programme. Donc ça veut dire que la contestation revient à des gens qui sont très remontés. Donc ceux qui vont voter contre, et même ceux qui se déplacent, sont des gens qui sont, c'est en gros les maximalistes, quoi. Les gens qui sont plutôt, qui savent pas trop, ou qui hésitent, restent chez eux, ils sont extrêmement nombreux, parce que, de manière générale, la confusion et l'indécision est assez grande, et même pour ceux qui n'y croient pas, qui n'ont pas voulu y croire, il y a quand même l'idée de se dire, il faut bien laisser une chance cette alternance.
Ça veut dire que ceux qui sont très remontés sont pas si nombreux que ça, finalement, si je suis votre point de vue, Anastasia Colosimo, parce que même au premier tour des législatives où le champ des possibles était beaucoup plus ouvert, finalement, on s'est quand même retrouvé avec une très très forte avance des candidats de La République En Marche.
Oui, alors en fait, je pense qu'il y a des deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ceux qui ne savent pas, ça c'est un peu dans les catégories plutôt moyenne haute classe. Je pense qu'ensuite, les classes populaires sont... Et ça a été montré, hein, ils ne sont pas du tout allés voter aux législatives. Je pense qu'il y a une immense colère, pour le coup, dans ces classes populaires. Et là, il y a plutôt une démission. Il y a plutôt l'idée de dire que, de toute façon, il est là. De toute façon, c'est quand il va y avoir une vague en marche. De toute façon, la presse nous dit que... etc. Donc ça, je pense que la colère, elle est immense. Mais dans cette colère, il y a ceux qui vont voter. Et il y a ceux qui restent chez eux et qui sont sans doute les plus dépités.
Brice Couturier, est-ce que et la victoire qui est indéniable des candidats de La République En Marche et le très haut niveau d'abstention qui est historique sous la Ve République témoignent d'une même crise de la politique qui ne s'exprime pas de la même manière, bien entendu?
Oui, oui, si on prend l'évolution de cette abstention, si on s'aperçoit qu'effectivement elle n'a cessé de grimper au cours des dernières élections législatives, c'était une élection qui avait beaucoup de succès auprès du public et elle en a de moins en moins. Pourquoi? Bah, pour une raison de calendrier électoral, d'une part, à partir du moment où les élections présidentielles précèdent la législative, on sait bien que au présidentiel tout est joué et que donc la législative, bah, c'est juste essayer de la part de l'électorat de ne pas contredire le choix qu'il vient de faire au présidentiel. Si vous ajoutez à cela le fait des primaires qui d'abord ont été ouvertes par la gauche, qui maintenant sont également effectuées par la droite, vous apercevez qu'on a un calendrier électoral épouvantablement chargé. Donc les passions qui sont agitées au moment des primaires puis au moment des présidentielles retombent. Maintenant, je voudrais dire autre chose à propos de cette abstention. J'entends monter une petite musique de la part des oppositions, parce qu'on ne peut plus parler d'une opposition, il y en a au moins quatre, de la part des oppositions, disant « ce gouvernement s'appuie sur une majorité en réalité qui manque de légitimité puisqu'elle a été élue dans le cadre d'une abstention massive, donc ce gouvernement n'a pas l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les réformes promises par le président de la République. Il faut que les gens qui tiennent ce discours se rendent compte qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis eux-mêmes, parce qu'après tout, eux-mêmes, ils ont été élus avec des scores extraordinairement faibles. Mélenchon, par exemple, il n'y a que 20% des électeurs qui se sont déplacés pour aller voter pour lui par rapport aux inscrits. Donc cet argument est un argument boomerang auquel devrait faire très attention. Par ailleurs, moi j'ai le sentiment aussi que, comme on dit, qui ne dit mot consent. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un enthousiasme.
C'est-à-dire qui s'abstient, consent à ce que la majorité aille à La République En Marche, c'est ça?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un enthousiasme délirant dans le pays pour soutenir les réformes promises par Emmanuel Macron, mais je pense qu'une bonne partie de l'électorat qui n'est pas enthousiaste veut voir avant de se prononcer. On lui promet qu'on peut faire tomber le chômage de manière de ramener le chômage français au niveau de ce qu'il est en Allemagne ou en Autriche. On veut voir. Les autres l'ont promis, ne l'ont pas tenu. Donc maintenant, on a quelqu'un qui promet quelque chose de plus radical. On veut le laisser faire. Et puis donc, il y a cette lassitude à l'égard du processus électoral lui-même.
Quand Jean-Luc Mélenchon, hier soir, après sa victoire, dit pour qualifier aussi la séquence des législatives et pour parler de l'abstention, il dit « Je vois dans cette abstention une énergie disponible. » C'est-à-dire pas seulement une lassitude, pas seulement une acceptation du résultat, mais aussi peut-être une attitude politique qui serait une forme d'action politique, c'est-à-dire le choix délibéré de s'abstenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là qui nous renvoie, je jette un œil à Sylvain Bourmois, à une émission qui avait été un petit peu compliquée. D'ailleurs, Anastasia Colosimo était aussi là avec Antoine Payon, qui est journaliste à La Croix, qui avait écrit un ouvrage dans lequel il expliquait pour les raisons pour lesquelles il considérait qu'il ne fallait plus aller voter. Mais vous, Sylvain Kahn, qui n'étiez pas là ce soir-là, vous en pensez quoi de cette hypothèse?
Mais j'avais écouté l'émission et j'avais bien entendu combien cette thèse et surtout la contestation très rationnelle et dans une forme de débat de bon aloi de cette thèse avait mis son auteur dans tous ses émois. Ce que j'en pense, disons, en tous les cas, j'en pense deux choses. La première, c'est qu'il vaut mieux dire, effectivement, quand on a un tel taux d'abstention, que les gens qui s'abstiennent font acte ou œuvre de politique. Parce qu'en un sens, c'est moins désespérant, hein. Quand on vient d'être élu ou d'être battu, on préfère dire les gens qui se sont abstenus, c'est un geste politique. Comme ça, d'une certaine manière, ça évite de dire voilà des gens qui sont dans une altérité radicale. Voilà des gens qui contestent radicalement le système au point de ne même plus s'y intéresser. hein, parce que à quoi bon faire de la politique quand plus de la moitié des électeurs s'abstiennent? Voilà, ça c'est la première chose. Bon, ben, la deuxième chose, effectivement, c'est que parler d'énergie dans l'abstention, ça veut tout de suite dire, évidemment, de manière pas très fine finalement, je vais essayer de récupérer cette énergie à mon profit. Après tout, si les gens qui se sont abstenus sont pleins d'énergie, comme moi aussi je dis que je suis plein d'énergie, notamment contre le pouvoir en place, et ben hop, du coup, j'agrège les abstentionnistes. C'est un peu ce que dit Mélenchon d'ailleurs. Hein. Mélenchon dit, les gens qui se sont abstenus, les gens qui ont voté pour moi, c'est pareil.
Nassia Colosimo.
Oui, je dirais que c'est quand même pas du tout la même chose que ce qui s'est passé au moment des présidentielles, parce qu'au moment des présidentielles, il y a eu un discours là-dessus. Il y a eu un discours sur le fait de s'abstenir au second tour. Il y a eu une discussion dans le débat public. Il y a eu des gens qui ont dit qu'ils n'iraient pas voter. Il y a eu tout le débat, d'ailleurs, dont Mélenchon a été le plus grand acteur, qui était est-ce que les gens de France Insoumise vont aller voter blanc ou vont voter pour Macron, etc. Je pense qu'aux législatives, il y a... Alors, c'est vrai, Sylvain Bourmont a rappelé le nombre de votes blancs, c'était très important. Je pense que ça existe, mais c'est quand même assez minoritaire. Je pense que le problème, il est beaucoup plus structurelle sur les questions d'agenda, sur les questions de lassitude, sur les questions de cette offre politique qui est un peu hybride et bizarre. Je pense que ça a en tout cas beaucoup moins joué là pour les législatives, cette espèce d'abstentionnisme militant que pour les présidentielles où il y a eu une véritable question de savoir d'aller voter ou pas au second tour.
Ça veut dire que ça pourrait être aussi un peu illusoire de vouloir s'approprier cette forte abstention en disant voilà de quoi nourrir l'opposition ou voilà de quoi nourrir encore davantage la majorité.
Ah oui, parce qu'elle est extrêmement divisée cette opposition. Elle est vraiment très 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 divisée.
Sylvain Bourmont.
Je pense qu'il y a une vraie différence dans le discours à l'égard de l'abstention entre un Jean-Luc Mélenchon d'un côté et un Emmanuel Macron ou ses représentants de l'autre. Mélenchon a la fâcheuse habitude de prendre ses désirs pour la réalité et il pense que toutes les classes populaires sont ses électeurs, de la même façon qu'il pense que tous les abstentionnistes sont ses électeurs. Ça, c'est un peu son travers. La réalité sociologique montre qu'il n'en est rien. Et inversement, j'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron ou les responsables de La République En Marche soient au fond si peinés que ça par le fait qu'il y ait un niveau important d'abstention. Je veux dire par là que pour moi, le phénomène même de Macron correspond à un état de la politique qui est un état d'apathie,
de sortie du
politique très grande. C'est-à-dire qu'au fond,
c'est-à-dire qu'ils sont validés, qu'il est validé par cette.
Il n'est pas validé. Il a une proposition politique qui correspond à des démocraties qui sont dans cet état-là, c'est-à-dire des démocraties à deux vitesses qui marchent que pour certains qui s'intéressent à la politique et qui laissent de côté les autres. D'ailleurs, les représentants de ce nouveau parti qui forme une majorité importante à l'Assemblée nationale ont une homogénéité sociale très 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 forte, plus forte que jamais. C'est-à-dire que ce sont les catégories supérieures, exactement les mêmes structures qu'on voit hein, quand on regarde la participation politique.
Donc c'est quand même jouer avec le feu.
Je dis pas que tout ça est nouveau. Au fond, Macron vient parachever une évolution qu'on voyait déjà poindre au Parti Socialiste ou dans les partis de droite. Hein. Ce n'est pas nouveau. Simplement, je pense que Macron s'est adapté à des transformations, d'ailleurs qui ne concernent pas que la démocratie française, qui concernent toutes les démocraties occidentales. Et finalement, il laisse de côté... une partie des électeurs. Je ne crois pas qu'on entende de sa part vraiment une tentative de remettre ces gens dans l'ensemble. Alors, je pense qu'une fois cette séquence électorale achevée avec tous ces scrutins, si on regarde les choses rétrospectivement, il y a de quoi être un peu en colère quand on est, par exemple, un électeur du Parti Socialiste ou quand on est un électeur des Républicains. Par rapport à une chose, c'est... finalement, l'incapacité qu'auront eu pendant 20 ans quelques générations de responsables politiques à prendre au sérieux la crise politique dans laquelle on se trouvait. Parce que cette crise, elle n'est pas nouvelle. Il y a 20 ans, je réclamais qu'on supprime l'élection directe du président de la République, par exemple, parce que je pense que on avait un grand problème, un gros problème institutionnel. Et y a eu des tentatives en ce sens. Il y a eu des demandes d'une sixième République. Il y a des gens qui, c'était pas mon cas, mais réclamaient une représentation proportionnelle. Il y avait des gros problèmes de politique professionnelle. Et je pense que les responsables politiques, tous ceux qui ont été battus largement là, depuis 20 ans, n'ont pas voulu prendre au sérieux ces problèmes. Le résultat est que Emmanuel Macron, lui, d'une certaine façon, les a pris au sérieux autrement, en proposant une autre manière de faire de la politique. Mais le résultat de ça, moi, personnellement, m'inquiète, puisque
c'est un résultat qui vient renforcer ces institutions terribles de la Ve République et qui ne vont certainement pas résoudre la crise de représentation dans laquelle nous nous trouvions. Alors ça sert les intérêts d'Emmanuel Macron, ça lui a permis de gagner cette élection, mais je crains que ça ne fasse que déplacer le problème de la crise de représentation politique dans laquelle nous nous trouvons. Sauf à considérer effectivement qu'une moitié de la population désormais ne fera plus de politique, ne s'intéressera plus à la politique. Ce qui est au fond le cas aux États-Unis depuis déjà très longtemps.
Est-ce que c'est une crainte que vous partagez, Brice Couturier ?
Non, moi je pense aussi que ce qu'on vit maintenant, c'est le fait qu'une partie de l'électorat, je suis d'accord, ne se reconnaît pas dans l'offre politique. Mais alors, soyons sérieux, elle n'a jamais été aussi pléthorique, l'offre politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électeur qui ne puisse pas trouver chaussure à son pied au premier tour des présidentielles ou au premier tour des législatives. On n'a jamais eu autant de candidats.
Il y avait de l'extrême droite. Et d'ailleurs, il y a eu une forte participation au premier tour de la présidentielle.
Mais oui, hein. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde était représenté. Alors, évidemment, au deuxième tour, il y a beaucoup de frustration. Non, moi, je pense que l'électorat est déboussolé par une chose qui est en train de se produire, effectivement, en France, comme elle se produit dans beaucoup d'autres démocraties occidentales, c'est ce qu'on appelle un réalignement politique, c'est-à-dire le passage à un nouveau système partisan. Le système partisan était basé de manière très simple sur une alternance chez nous comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme en Angleterre, sur l'alternance d'un centre droit et un centre gauche qui en réalité était d'accord sur l'essentiel.
Depuis plusieurs siècles.
J'irai pas jusque-là. Parce que sous la 4ème République, c'était quand même un petit peu différent. Il n'y avait pas cette alternance systématique entre droite et gauche. Il y avait
un clivage droite-gauche.
Il y avait un clivage droite-gauche, mais les gouvernements étaient plutôt centriste, justement. Et c'est avec ça qu'on est en train de renouer. Or là, ce qu'on voit apparaître en France, comme on l'a vu dans d'autres pays avant nous, c'est l'émergence de deux nouveaux clivages, qui est un clivage en réalité entre, disons, souverainisme et mondialisation d'une part, et entre altermondialisme et libéralisme économique. Et ces deux clivages-là redécoupent le paysage électoral et politique de manière extrêmement différente. Les vieux partis qui ne l'ont pas compris et qui ont laissé s'installer ce clivage en leur propre sein, qui étaient les partis de gouvernement PS et Républicains, sont aujourd'hui en crise, évidemment, parce qu'ils n'ont rien vu venir. Il y en a un qui avait vu venir la chose, c'est Macron. Il a pris position là, il a compris qu'il y avait un électorat, et il a compris qu'il y avait une mutation idéologique qui était en train de se produire, et il en a profité comme d'un courant ascensionnel.
Ça veut dire que pour vous, Brice Couturier, alors bien sûr, on est au début de la mandature, au début du mandat d'Emmanuel Macron, donc on n'en est pas tout de suite à imaginer quelle serait l'alternance d'ici quelques années, mais puisque c'est aussi la façon dont on a formulé notre problématique ce soir. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous aujourd'hui, du fait de la reconfiguration politique, ne pourraient incarner l'alternance aujourd'hui que soit les altermondialistes, soit les souverainistes, mais que l'alternance, elle est forcément dans un de ces deux camps?
Ce que je pense, c'est que les partis qui existent aujourd'hui, le grand parti d'opposition aujourd'hui, c'est le Républicain avec ses alliés du centriste. Ils sont.
Sauf qu'on n'est plus très sûr qu'ils soient dans l'opposition, dans la majorité.
Voilà. Enfin, c'est ce que je vais vous dire. C'est ce que je veux dire. Ils sont 130 aujourd'hui. Donc, c'est le bloc d'opposition le plus important. En réalité, on va le voir mardi et mercredi où ils ont deux réunions très importantes, une à l'Assemblée et l'autre de leur propre parti. Ils vont éclater, bien entendu. Ils vont éclater parce qu'ils sont d'accord sur rien, ni sur la tactique, à savoir est-ce qu'on travaille avec Macron ou est-ce qu'on le combat ouvertement. Et alors vous avez trois tendances très clairement. Une qui dit oui, on le combat, l'autre qui va ce qu'on appelle les constructivistes, les constructeurs qui vont rejoindre en réalité la majorité, et c'est le cas de la plupart de ceux qui sont dans l'UDI. Mais vous avez une autre qui est centriste, qui dit de temps en temps oui, de temps en temps non. Mais ces gens-là vont éclater. Ils ne peuvent pas rester dans le même parti, ils ne peuvent pas rester dans le même groupe parlementaire. Mais pareil au PS, ne vous faites pas d'illusions, ça sera pareil. Ça va éclater, bien entendu. Et Macron est l'agent de cet éclatement du paysage politique et de sa recomposition.
Sylvain Cahn.
En tout cas, si le PS éclate, vu ce qu'il en reste, ça ne fera pas de gros morceaux. Mais moi, je voudrais prolonger ce qui a été dit par une autre interprétation possible, qui est peut-être plus optimiste, mais en tout cas, dont j'aimerais pouvoir penser qu'elle est possible, voire vraie. Vous savez à quoi je pense pour porter un jugement sur cette abstention très forte qui vous soucie tant, Hervé Gardette.
Je pense. Non, parce que j'étais passé à autre chose, mais bon, si vous voulez revenir.
Non, mais aussi dans le prolongement de ce qui a été dit sur quel est le sens de, parce que Sylvain Bourbeau disait, après tout, Emmanuel Macron, c'est pas très important pour lui qu'il y ait autant d'abstentionnistes, hein, donc on est à la fois passé à autre chose tout en restant avec ce fil rouge. Il me semble que on peut se rappeler de façon assez utile. Du syndicat Solidarité, Solidarność, je le dis avec un très mauvais accent polonais, donc des années 70 et 80. Parce que moi, ce que j'ai appris de cette époque-là et de ce mouvement-là, c'était une capacité de la société civile, parce qu'on nous parle beaucoup de la société civile avec l'élection de Macron et de La République En Marche, une capacité de la société civile à dire aux leaders politiques, écoutez, on veut surtout pas faire de la politique à votre place, disaient à l'époque les syndicalistes au pouvoir totalitaire polonais. Nous, on veut juste pouvoir nous organiser et faire avancer nos droits. Et je me demande dans quelle mesure, aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de ça dans la France actuelle. C'est-à-dire que, bon, la politique, en un sens, c'est un manège. C'est un manège qui a son utilité. Il y a des députés qui votent des lois, un gouvernement qui gouverne, qui essaye de modifier des choses en faisant des lois. On se rend bien compte qu'à chaque alternance, un certain nombre de choses qui ont été faites par la majorité précédente sont défaites ou modifiées par la nouvelle majorité. Et finalement, tout ça ne change pas grand-chose à un certain nombre de grands problèmes, pour n'en prendre qu'un, le chômage. Et donc, je me demande aussi si il n'y a pas... On voit beaucoup de la défiance dans l'abstention. Peut-être qu'il y a de la défiance, mais il y a peut-être aussi cette idée que, bon, à la limite, on a élu un président, bon, il va avoir sa majorité, à la limite, peu importe, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. De toute manière, il n'y a pas une porosité si grande que ça entre la sphère politique, la société politique d'une part et la société civile d'autre part. En effet, moi je suis très frappé par le fait que Macron, qui ne parle que de société civile, et c'est assez plaisant, bien entendu, de faire monter des nouvelles personnes, des nouveaux gens, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, de voir qu'il fait monter des nouvelles personnes. Mais je ne vois pas encore comment il relaie, d'accord, ce qui, moi, m'apparaît de manière très, très empirique, comme les nouvelles initiatives. Hein. Chez nos collègues de France Inter, tous les jours, il y a une émission qui s'appelle Carnet de campagne, qui dure un quart d'heure à 12h30, si je ne m'abuse, pendant notre journal ici à France Culture. Et là, à chaque fois, ils vont à la rencontre, on va dire, des nouvelles initiatives, des nouvelles manières de faire de l'économie, des nouvelles manières de faire entreprise, des nouvelles manières de faire de la solidarité, etc. Et ça, je trouve que, malgré les grands discours sur la société civile, c'est pas tellement pris en charge par La République En Marche. Et donc, je me demande s'il n'y a pas, dans une certaine mesure, un parallélisme entre, d'un côté, la société civile qui s'organise avec des gens, y compris très actifs, de l'autre, la société politique. Un certain nombre des gens de la société civile pensent qu'il y a une intersection avec La République En Marche, mais un certain nombre d'autres qui sont très actifs ne le trouvent pas. Et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas un signe de ce qu'est la politique et la société aujourd'hui? C'est-à-dire que on fait des lois, ça change pas forcément grand-chose, et pour changer les choses, il faut être finalement dans la vie active au sens le plus large du mot.
Anastasia Colosimo.
Alors sans doute, mais moi je pense que quand même l'offre politique... Alors pour revenir un peu à ce que disait Brice, parce que c'est là-dessus que je voulais rebondir, mais ce qui intègre aussi un peu ce que dit Sylvain Kahn, c'est-à-dire que, bon... ce que vous dites, Sylvain Kahn, c'est sans doute vrai, mais il y a aussi une recomposition très forte du paysage politique qu'il faut quand même analyser, qu'il faut essayer de comprendre. Parce que, par ailleurs, ce que Macron a fait avec les libéraux, c'est-à-dire rallier les gens qui sont libéraux politiquement et économiquement, le Front National l'a fait bien avant avec les antilibéraux, en ralliant les antilibéraux économiques et les antilibéraux politiques. Donc en fait, cette recomposition... En fait, l'opposition naturelle, ou plutôt l'opposition la plus opposée à En Marche, devrait être logiquement le Front National. Mais, et c'est là où je vous dis qu'en fait, c'est un peu trop tôt de parler de la disparition de la droite et de la gauche, et que c'est vraiment d'une reconfiguration dont il faut parler. Il y a aussi en France des gens qui sont très libéraux économiquement et qui sont très antilibéraux politiquement. Et c'est les Républicains. Et inversement, au Parti Socialiste, on a là des gens qui sont très antilibéraux économiquement et qui sont très libéraux politiquement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'un système à deux possibilités à un système à quatre possibilités, qui sont quatre possibilités qui sont très différentes les unes des autres et qui recoupent même des traditions philosophiques très différentes. Et à mon avis, qu'il ne faut pas du tout minorer ça, c'est-à-dire une recomposition idéologique qui est très puissante dans le fond.
Est-ce que du coup, vous y voyez quelque chose de plutôt intéressant, Anastasia Colosimo, c'est-à-dire une possibilité, une offre de possibles alternances plus étoffées qu'elle ne l'était, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant, ou au contraire quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire qui réduit peut-être d'autant la possibilité d'une alternance? Or, on sait bien que cet horizon-là, il est aussi essentiel pour faire fonctionner la démocratie.
Alors déjà, je dirais que c'est très intéressant d'un point de vue de philosophie politique et de culture politique, parce que on a quand même beaucoup fonctionné sur des systèmes où on considérait que l'économique était parfaitement solidaire du politique. Donc si on était antilibéral, on était antilibéral des deux, et inversement, on était libéral des deux. Donc ça veut dire que là, même, vous voyez, en termes de théorie politique, il y a des choses très intéressantes qui se passent. En termes d'offres politiques, c'est évidemment très intéressant, parce que ça permet de poser beaucoup plus de questions, et avec beaucoup plus de nuances différentes. Mais ça veut dire, par ailleurs, et c'est là où l'instabilité stabilité va peut-être être un problème, surtout que La République En Marche aujourd'hui parle d'instaurer peut-être une proportionnelle, ce qui est d'ailleurs assez absurde parce que ça ne devrait pas beaucoup les servir vu que là ils ont 5 ans les mains libres. Donc ça, bon. Mais
à chaque début de quinquennat, on parlait d'une dote proportionnelle.
C'est
pour la prochaine fois.
On verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que du coup, ça promet effectivement une instabilité plus grande et des clivages beaucoup plus marqués et une violence beaucoup plus grande. Ensuite, Brice Couturier disait quelque chose d'intéressant. Il disait, là, les Républicains, ça va être très compliqué. Il y a ceux qui vont être pour Macron, contre Macron, etc. Ensuite, Macron, par exemple, on peut considérer que le programme de En Marche et le programme des Républicains, économiquement, est tout à fait pareil. Et
ensuite, compatible, pas pareil.
Très compatible, disons, très compatible. Mais ensuite, la pérennisation de l'état d'urgence, par exemple, parce que c'est, bon, il y a quand même ce projet de pérennisation de l'état d'urgence, c'est un truc que la droite ne se serait même jamais permis de faire. Enfin, c'est un truc dont ils ont rêvé et qu'ils n'auraient jamais
totalement
pu...
Totalement illibéral.
Donc, c'est pour ça que, voyez, en fait, la confusion est quand même assez grande. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je pense que ceux qui, aujourd'hui, se disent les plus pro En Marche à l'Assemblée seront ceux qui, paradoxalement, seront contre la pérennisation de l'état d'urgence. Donc, en fait, cette espèce de glissement permanent entre l'économique et le politique fait que les recompositions vont être, en fait, très nuancées et très complexes.
Sylvain Bormeau.
Moi, je veux bien qu'on analyse tout au plan idéologique, avec des clivages idéologiques. C'est vrai que ça compte, ça a une certaine importance. Mais la politique, c'est aussi une offre politique, des entreprises politiques, des organisations politiques qui parviennent à mobiliser des électeurs. Et la question, au fond, qui se pose, c'est de savoir si La République En Marche correspond à ce nouveau stade de la politique. Stade dans lequel donc on laisse la moitié de la population ne plus s'intéresser à la politique et dans laquelle on fait de la politique ubérisée en quelque sorte ou 2.0, c'est-à-dire dans des relations directes à distance avec des électeurs pendant les campagnes électorales et en ayant le moins de contact possible avec eux hors de ces périodes électorales. C'est ce à quoi, à mon avis, aspire pour être tranquille pour gouverner Emmanuel Macron et La République En Marche.
C'est purement hypothétique, parce qu'on ne sait pas encore quelle sera la pratique du pouvoir.
C'est hypothétique, mais c'est aussi une réalité. Je vais vous raconter une anecdote, une histoire que j'ai appris dimanche en allant voter à mon bureau de vote. Une des assesseurs de ce bureau de vote me disait, il y a là quelque chose d'assez incroyable au fond, le bureau de vote, je suis allé en fin de journée, était ouvert depuis le matin. Et ce n'était pas propre à ce bureau de vote, c'était le cas dans toute la circonscription, et je pense que c'était le cas largement dans le pays. Le bureau de vote a été tenu tout au long de la journée par des assesseurs appartenant d'une part au Parti Socialiste, d'autre part aux Républicains. On n'a pas vu un seul assesseur. Ce deuxième tour opposait un candidat à La République En Marche à un candidat à La France Insoumise. On n'a pas vu d'assesseur ni de La France Insoumise, ni de La République En Marche. Et c'était le cas pour la plupart, voire la quasi-totalité des bureaux de vote de cet arrondissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le personnel politique, ils n'ont pas les militants, ils n'ont pas les gens qui font de la politique à d'autres moments dans l'année qu'au moment des campagnes électorales.
Ouais, ça demande du temps, Sylvain Bormeau.
Ils ont bien trouvé des mouvements. Ils ont bien trouvé des députés. D'abord, Mélenchon, c'est pas si neuf que
350 000
ça. La France Insoumise, c'est pas si neuf que ça. Ça fait quand même des années. Et ils ne sont pas capables. Hier, on a appris que dans la circonscription de Manuel Valls, visiblement, il y a des bureaux de vote dans lesquels il n'y avait pas d'observateurs et d'assesseurs de la France Insoumise. D'où réclamation d'ailleurs de leur part. Donc, visiblement, ils n'ont pas assez de monde sur le terrain. Ça vaut pour Macron. Et donc, les vieux partis classiques, le système, comme ils disent, ce sont eux qui tiennent encore les outils qui permettent la démocratie, qui permettent l'exercice du vote dimanche. Donc, comment on va sortir de ça ou pas? Qu'est-ce qui se passe après? Je trouve que c'est une anecdote qui en dit long sur ce moment que nous sommes en train de vivre.
Est-ce que tu aurais...
Précisément, moi je pense que les anciens partis, vous savez, ils avaient déjà beaucoup évolué. Grâce à la télévision, ils étaient passés du stade où on faisait les préaux d'école à celui où on s'adresse à la télévision. Et ensuite, ils sont passés aux primaires. Et bien là, effectivement, on a des nouveaux partis, en particulier ceux qui viennent de gagner, La République En Marche, qui est effectivement un parti du type Uber, c'est-à-dire un parti de désintermédiation. Les anciens gros vieux partis PS républicains, c'était des partis qui n'avaient pas subi encore cette révolution numérique. En Marche, comme comme d'ailleurs l'électorat, le parti démocrate à l'époque d'Obama, c'est des partis de désintermédiation.
Mais
c'est
la désintermédiation, s'agissant de représentation politique, est-ce que c'est pas complètement oxymorique? Enfin, je veux dire, c'est la fin de la représentation s'il n'y a plus d'intermédiaires.
C'est à se poser la question. C'est bien pour ça que le renouvellement qui est en cours en ce moment à l'Assemblée nationale sera intéressant à regarder de point de vue d'un sociologue comme vous, Sylvain, parce qu'effectivement, on va s'apercevoir effectivement qu'on a affaire à des non-professionnels de la politique, et c'est ça la nouveauté. C'est une très bonne chose, parce qu'on se plaignait depuis si longtemps d'avoir affaire à des vieux politiciens encroûtés dans cet métier, qui n'avaient jamais rien fait d'autre de toute leur vie que de la politique, qui étaient passés d'assistant parlementaire à député puis à ministre, sans jamais mettre les pieds de leur vie dans une entreprise et qui faisaient la loi pour les autres. Pour une fois, on a des gens qui viennent du monde de l'entreprise.
Sur le premier diagnostic de la crise, je suis d'accord, Brice, mais sur nous réjouissons pas trop vite. Vous connaissez l'étude de Luc Rouban, l'entretien qu'il a donné au Figaro. Un tiers seulement des candidats de La République En Marche n'avaient aucun lien professionnel avec la politique. Un tiers seulement.
Non, ils avaient fait. Non, oui, j'ai
non,
lu.
Non, c'est des gens qui étaient dans les cabinets.
C'est des gens qui faisaient de la politique dans des partis politiques, mais qui n'avaient pas un itinéraire politique professionnalisé.
Ou qui étaient des professionnels de la politique non élus, qui étaient des conseillers, qui étaient des gens qui travaillaient pour des responsables politiques.
Un certain nombre.
Et en même temps, c'est très bien, et c'est vrai qu'on a, on avait très envie aussi de voir arriver des personnes de l'extérieur dans cette Assemblée nationale. Et en même temps, je pense que le niveau de technicité aujourd'hui qui est demandé des parlementaires fait qu'en réalité, ce qui peut se passer, alors on espère que non, mais ce qui peut se passer, c'est que en fait, les lois vont être faites, et c'est déjà le cas en réalité, mais ça va ne faire qu'amplifier le phénomène. Les lois seront faites complètement par le gouvernement.
Les lobbies. Les amendements par des lobbies. Non mais allons jusqu'au bout du tableau. Enfin, très souvent, les amendements sont rédigés par...
Bien sûr.
C'est sous-estimer la capacité de nouveaux députés à prendre leur boulot rapidement.
Alors déjà, moi, franchement, je serais extrêmement admirative, mais c'est un boulot qui est très compliqué. Enfin, les finances publiques, pardon, l'économie, des trucs très techniques, en droit du travail, en ceci, cela. Enfin, les gens font quand même des études qui durent 5-6 ans avant d'y comprendre quelque chose. 5-6 ans, c'est la fin de la législature. Donc, ça veut dire aussi, enfin voilà, il faut aussi avoir un respect pour la matière. C'est des sujets qui sont très compliqués, et il y a un risque, effectivement, que tout soit fait par les technocrates dans les cabinets et que ensuite ça soit une sorte de validation express avec par ailleurs dans les médias les hurlements et les vociférations de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc ça peut aussi ressembler à 5 années comme ça.
Sylvain Kahn.
Non, mais je voulais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit pour dire que effectivement, enfin pour rajouter au lobby et au cabinet, si ce risque se réalise. La nature ayant horreur du vide, le poids qui peut être pris, l'influence qui peut être prise par la haute fonction publique. D'autant plus que, pour l'instant, ce qui est quand même très frappant pour l'instant, c'est effectivement que, bien entendu, il n'y a pas encore de tradition ou de culture La République En Marche. Donc pour l'instant, effectivement, tout est neuf, tout est à faire. Et en revanche, les traditions politiques ou les cultures politiques qui étaient portées et incarnées par les partis classiques, tout d'un coup, semblent être un peu mises à la poubelle comme de vieilles chaussettes. Alors, s'agissant des Républicains UDI, ils sont encore suffisamment nombreux pour qu'on comprenne qu'il y a une espèce de corps de doctrine qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais s'agissant du Parti Socialiste, on peut un peu avoir le sentiment qu'avec cette espèce de rétrécissement très très grand du nombre de députés, il y a une perte de mémoire. C'est un peu comme si on se débarrassait d'une bibliothèque, quoi, si vous voulez. Hein, tout d'un coup, il y a...
Il y a quelques livres qui se retrouvent quand même du côté de La République En Marge. Donc voilà, il y a quelques collections, quelques belles collections, non ?
Je ne crois pas. Enfin, disons, je ne suis pas sûr, Hervé Gardette, qu'on puisse le dire comme ça. Parce que pour l'instant, La République En Marche, ne l'oublions pas, si j'ai bien compris la campagne électorale du président de la République, c'est de gauche et de droite. Et pour l'instant, du moins, moi, c'est ce que j'en comprends, c'est plutôt un catalogue de mesures que un corps de doctrine. Alors moi, il se trouve que je suis très pro-européen pour tout un tas de raisons, donc je suis, à titre personnel, totalement enthousiaste par, j'ai envie de dire, dans ce catalogue de mesures, les mesures sur l'Europe. Voilà. Mais vous voyez, ça veut dire que il peut y avoir un petit côté, tous autant que nous sommes électeurs ou citoyens, on vient sur les rayons et on prend à chaque fois la mesure qui nous intéresse. Mais ça ne fait pas un corps de doctrine.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. On l'entendait, c'est le générique de fin. Anastasia Colosimo, Sylvain Kahn, Sylvain Bourmeau et Brice Couturier. On vous réécoute sur franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre.
Merci également à l'équipe de l'émission, Fanny Richer, Céline Leclerc, Sarah Petitbon, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son David Federman. Demain, à la veille de la présentation d'un nouveau projet de loi contre le terrorisme, nous poserons la question suivante. Que devient l'exception quand l'exception devient la règle? Je vous laisse 24 heures pour y réfléchir, ou presque. Dans un instant, vous allez retrouver Mathilde Serrel et Martin Kenen pour Ping Pong. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Végardette.
Bonsoir Végardette. Justement, c'est après les attaques terroristes qu'il a décidé de réfléchir à ce qui pouvait redonner vie, redonner pulsion. Babix est avec nous pour son nouvel album Ascension dans Ping Pong.
Et eux, non seulement ils sont en marche, mais surtout ils roulent. Marie Raymond et Sébastien Poudérou qui nous présentent Comme une pierre qui, autour de cette épique session d'enregistrement du titre Like a Rolling Stone de Bob Dylan, une mise en scène théâtrale à découvrir au studio théâtre de la Comédie Française.
Eh bien, on vous retrouve tous les deux avec vos invités après le rappel des titres.